Un journal présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Les réquisitions dans le procès Mediator depuis ce matin, elles sont dirigées contre les prévenus, au rang desquels les laboratoires Servier et l'Agence nationale de sécurité du médicament. Elles doivent durer jusqu'à demain matin, ces réquisitions. Compte rendu de Florence Turme dans un instant.
Quelle prise en charge pour les malades guéris du coronavirus et qui pourtant souffrent de symptômes persistants? Nous verrons cela avec le reportage de Tara Schlegel à l'hôpital Foch de Suresnes.
Ce sera le dossier de cette édition. Nous irons également en Allemagne où deux cantons de l'ouest du pays viennent d'être reconfinés en raison d'une résurgence de l'épidémie. Correspondance de David Philippot. Dans ce journal également une page économie avec un appel à la grève reconductible à partir de demain à BFM TV et l'enquête des syndicats de PSA sur le télétravail dans l'entreprise voulue par la direction. Mais pas si soutenu, vous l'entendrez, parmi les salariés. Des réquisitions contre le jusqu'au boutisme des laboratoires Servier. Le terme vient du parquet qui évoque également les manipulations, dissimulations et manœuvres des prévenus dans le procès du Mediator. Après des mois d'audience, les réquisitions ont commencé ce matin à l'encontre des différents prévenus et notamment des laboratoires Servier. Avec cette question en filigrane, comment un produit à l'efficacité si modeste et aux effets indésirables si dangereux a-t-il pu rester si longtemps commercialisé au tribunal correctionnel de Paris, Florence Turme.
Émotion et détermination. Deux mots pour résumer l'état d'esprit dans lequel Aude Le Guilcher débute son réquisitoire. Émotion face aux paroles sincères et poignantes des victimes, leur pudeur et leur colère mêlées. Au passage, elle rend un hommage public et solennel au docteur Irène Frachon qui a pris place dans la salle, un masque sur le visage. Il aura fallu toute sa ténacité, sa curiosité, son intuition et son courage. Sans elle, combien de temps l'Agence nationale de sécurité du médicament aurait-elle mis pour suspendre le Mediator? Interroge la magistrate. Un médicament resté sur le marché pendant 33 ans, rappelle-t-elle, et les accusations pleuvent sur les laboratoires Servier. La firme, préfère finalement dire la procureure, et elle insiste sur le terme « la firme ». Manipulation, dissimulation, diversion, mensonge et des conséquences extrêmement lourdes pour la santé publique. Pour l'accusation, l'infraction de tromperie est bel et bien constituée. Elle pointe aussi les manquements de l'Agence nationale de sécurité du médicament. L'ANSM, censée être à la fois l'experte et le gendarme, est finalement incapable d'avoir une vision globale, incapable de prendre les mesures qui s'imposent, incapable d'être à l'écoute et de tirer les conséquences des alertes venues de l'extérieur. Les deux procureurs ne livreront que demain les peines qu'elles requièrent. En revanche, elles précisent déjà la dissolution de la personne morale, autrement dit les laboratoires Servier ne fait pas partie des peines encourues. C'est ce que souhaitaient, à titre symbolique et dissuasif, les avocats des parties civiles.
Florence Sturm. Les groupes France Insoumise et Les Républicains à l'Assemblée nationale réclament une prolongation jusqu'à fin septembre des travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les obstacles à l'indépendance de la justice dans l'affaire Fillon. Une demande qui fait suite aux propos de l'ex-chef du parquet national financier, Éliane Houlette, qui s'émeuvait le 10 juin dernier de la pression et du contrôle très étroit qu'elle disait avoir subi du parquet général pendant ses investigations, des révélations qui d'ailleurs provoquent également la demande par les avocats de François Fillon de la réouverture des débats, alors que leur client doit être jugé à partir de la semaine prochaine. À Nice, ce sont 9 personnes qui pourraient être renvoyées aux assises dans l'enquête sur l'attentat du 14 juillet 2016. Ce jour-là, Mohamed Lawayej Boulel a tué 86 personnes sur la promenade des Anglais au volant d'un camion de location. Il a été par la suite abattu, sans qu'on sache à quel niveau il avait pu bénéficier de complicité. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir.
Près de 4 ans après l'attentat, le parquet national antiterroriste a demandé le renvoi aux assises de ces 9 personnes de l'entourage du tueur pour des niveaux d'implication très divers.
Des niveaux d'implication très divers, mais pour aucun d'entre eux, cela ne va jusqu'à la complicité d'assassinat. Le parquet national antiterroriste requiert l'abandon des poursuites pour ce chef d'accusation. Il reste donc pour 4 suspects l'association de malfaiteurs terroristes criminels. Le parquet estime qu'ils n'ont pas eu une connaissance précise des modalités de l'attentat, mais ils avaient conscience de l'existence d'un projet. Ils étaient en effet très proches du terroriste. Certains d'entre eux sont même montés dans le camion avec lequel il a foncé dans la foule. Certains ont joué un rôle dans sa recherche d'une arme. Le parquet national antiterroriste évoque l'existence d'échanges avec Mohamed Lawayesh Boulel, révélateur d'une entente et d'un projet commun. Pour 5 autres suspects, le parquet requiert le renvoi devant la cour d'assises pour la fourniture d'une arme aux terroristes. Mais le parquet reconnaît qu'aucun d'entre eux ne connaissait la destination de ces armes. Sur ces 9 suspects, 4 sont actuellement en détention provisoire, 4 sous contrôle judiciaire et 1 est sous mandat d'arrêt. À noter qu'un 10e mis en cause s'est suicidé en prison. Dans cette affaire, 859 victimes se sont constituées partie civile, sans compter les associations. Elles exigent la tenue d'un procès malgré la mort du terroriste. Il reste donc, ces 9 suspects. Avaient-ils connaissance de l'existence d'un projet d'attentat? L'enquête n'en a pas apporté la preuve.
Merci Antoine Maret.
L'Allemagne est confrontée ces derniers jours à une nouvelle accélération de l'épidémie de Covid-19.
Moins touchée que beaucoup de ses voisins européens au cours du printemps, l'Allemagne se voit confrontée à une reprise importante et inquiétante des contaminations, notamment à la suite de l'apparition d'un vaste foyer dans un abattoir dans l'ouest du pays. 1500 cas d'infection ont été recensés dans un canton qui compte 360 000 habitants, ça fait beaucoup. Les autorités ont ordonné un reconfinement localisé mais immédiat. David Philippot.
Oui, c'est le canton de Gütersloh et c'est en fait le retour à la situation qui prévalait en mars avec, pour les habitants, contact limité en extérieur aux personnes de 2 foyers différents, fermeture des bars, des cinémas, des musées et l'interdiction à nouveau du sport en salle. Ces mesures de reconfinement sont imposées dans cette région très peuplée, très industrialisée. Elles seront en vigueur pendant une semaine et il n'y aura de retour vers la normale que si les chiffres rebasculent dans le vert. Il s'agit donc en attendant de reprendre le contrôle sur cette nouvelle flambée de l'épidémie, un virus qui s'est propagé à vitesse grand V dans cet abattoir le plus grand d'Europe. Hier soir, les autorités ont annoncé que 1553 personnes sont contaminées, 7000 habitants en tout sont en quarantaine, essentiellement des travailleurs sous-payés venus de l'Est de l'Europe. Et ces mesures visent donc à éviter que le Covid se propage dans le reste de la population. Des tests gratuits sont également mise à la disposition des habitants afin d'éliminer le seul point noir sur la carte sanitaire de l'Allemagne. C'est un canton déjà touché lors des premiers cas de contamination dans les abattoirs allemands fin avril. Et pour la première fois, le président de la région qui a annoncé ces mesures a mis en accusation l'entreprise Tönnies. Le conservateur Amin Laschet a mis en cause le manque de coopération du numéro 1 allemand de la viande. La loi oblige la société à fournir des renseignements sur ses employés, mais Clemens Tönnies, surnommé le baron de la viande, a prétexté la protection de leurs données personnelles.
David Philippot, et on vient d'apprendre qu'un 2e reconfinement dans le canton voisin de Warendorf a été ordonné par les autorités allemandes cet après-midi. En France aussi, la question du reconfinement localisé peut se poser, en Guyane notamment, où la situation est jugée très préoccupante par les autorités sanitaires. Le virus circule activement dans le territoire, notamment le long du littoral et dans l'ensemble des villes du territoire, indique la Direction Générale de la Santé aujourd'hui dans un communiqué.
Venons-en maintenant aux suites de la contamination au coronavirus pour les malades eux-mêmes.
À l'hôpital Foch, à Suresnes, a été créée la première consultation post-Covid proposée en France. C'est le dossier de cette édition. Ce parcours de soins baptisé Rehab Covid cherche à remettre sur pied les malades qui peuvent souffrir de symptômes persistants et parfois très handicapants plusieurs semaines après même leur guérison. Consultation imaginée par le professeur Nicolas Barizien et par son équipe. Tara Schlegel a suivi pour nous une patiente de 37 ans guérie de la maladie Covid-19 mais qui n'arrive pas vraiment à récupérer.
C'est pas mon essoufflement habituel.
D'accord, c'est pas votre essoufflement habituel.
Anne-Laure vient de faire un test de marche avec la kinésithérapeute.
Je pense que j'ai fait pas mal d'allers-retours.
Après 6 semaines de mieux, cette jeune femme a développé à nouveau des symptômes qui ne lui offrent qu'un seul choix.
Retrouver mon lit régulièrement. J'ai pas pu reprendre le travail pour le moment. Et déjà, gérer une maison et 3 enfants, c'est déjà, actuellement, c'est le maximum. Ouais.
Comme Anne-Laure, la plupart des patients ici sont jeunes, actifs, détaille le docteur Nicolas Barizien. Mais 1 à 2 mois après leur phase aiguë, ils vivent une résurgence.
C'est quasiment la même chose, sauf la fièvre, c'est-à-dire de l'essoufflement au moindre effort, de l'oppression thoracique, c'est-à-dire l'impression d'avoir une enclume sur la poitrine, des douleurs à l'inspiration profonde, parfois des migraines, Et puis surtout de la fatigue, grande lassitude.
Allez, on en fait une dernière.
Pour tenter de les soulager, les patients sont évalués selon quatre critères. Une diététicienne examine leur poids, une kinésithérapeute mesure leur endurance et une éventuelle perte de la masse musculaire, à quoi s'ajoutent deux autres pistes.
La gêne respiratoire, et on recherche en particulier un syndrome d'hyperventilation, c'est une respiration superficielle qui n'est pas efficace et qui donne une partie de ses symptômes. Et puis, il y a aussi potentiellement un syndrome anxieux. Donc, l'idée, c'est de faire un diagnostic, non pas d'une maladie, mais d'un dysfonctionnement, et le soigner.
Joséphine est psychologue.
Il y a cette impression qu'on n'en sort pas. Tous les patients qui sont plutôt jeunes, du coup, voilà, ont envie de reprendre une vie normale et ils n'y arrivent pas. Donc, en fait, la fatigue atteint beaucoup le moral avec des périodes aussi d'anxiété. Est-ce que ça recommence? Est-ce que ça s'empire? Est-ce que... Voilà. L'idée, c'est de les accompagner. Après, s'il y a besoin de plus, on n'hésite pas du tout à envoyer vers l'extérieur.
Suivi psychologique, séance de kiné ou conseil diététique, chacun est donc orienté, sourit Anne-Laure, qui ne va pas ménager ses efforts.
Parce que j'ai envie de reprendre le travail. j'ai pas l'impression d'être inquiète, c'est juste qu'à un moment donné, il faut essayer de faire quelque chose, quoi.
Si on se réveille au mois d'octobre avec des gens qui ont une forme enkystée de ce syndrome post-COVID, ça sera beaucoup, beaucoup plus compliqué de traiter une forme chronique. Donc c'est pour ça qu'il faut s'en occuper maintenant.
Et pour évaluer si ces symptômes post-Covid deviennent effectivement chroniques, l'équipe du docteur Barizien recevra les mêmes malades à Foch au bout de 2 puis de 6 mois.
Reportage de Tarache Légal. L'application Stop Covid a permis jusqu'à ce jour de signaler 14 cas de risque de contamination en France. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le secrétaire d'État au numérique Cédric O, qui a également donné lors d'une conférence de presse le chiffre de 68 personnes ayant utilisé à ce jour l'application afin de prévenir de leur contamination les personnes qu'elles ont croisées. Les salariés de BFM TV sont appelés à faire grève demain, comme l'ensemble de leurs collègues du groupe Next Radio TV, qui comprend également la radio RMC. Il s'agit pour eux de dénoncer le plan d'économie drastique annoncé la semaine dernière par la direction. Plan qui prévoit de supprimer jusqu'à 380 postes en CDI et 200 places de pigistes et intermittents, soit en tout presque un tiers des emplois de cette société filiale du groupe Altice. Bonsoir Maxime Tellier.
Bonsoir Benoît.
La grève reconductible a été massivement voté cet après-midi.
Oui, la grève commencera à 4h30 demain matin contre un plan de la direction qui fait la quasi-unanimité contre lui, hein, voté par 95% des participants à l'Assemblée Générale qui s'est tenue en extérieur cet après-midi. Tous ou presque rejettent l'argument de la direction qui anticipe un écroulement des recettes publicitaires après la crise sanitaire. Alban Azet est délégué syndical CGT chez Next Radio TV.
Il y a vraiment un sentiment d'injustice. La phrase est revenue deux fois dans l'AG. Ils nous punissent alors qu'on devrait être récompensé. C'est-à-dire on a fait de bonnes audiences sur BFM TV. RMC est la première radio la plus rentable l'année dernière de France. BFM TV, première chaîne d'info. Il y a une vraie incompréhension que les salariés ressentent comme une injustice.
Et dans les discussions avec les syndicats, la direction annonce qu'elle veut mutualiser les fonctions support, diviser par deux le recours aux pigistes, aux intermittents et aux consultants. Tout cela via un plan de départ volontaire et, si ça n'est pas suffisant, par des départs contraints, inacceptables pour Alban Azet.
C'est la première fois, historiquement, y compris moi en tant que délégué syndical, c'est la première fois que je vais faire grève pour un sujet qui concerne ma société en elle-même. C'est à la fois difficile individuellement pour les salariés de se dire de passer par ce droit-là, mais je crois qu'on est vraiment, et les salariés l'ont aussi évoqué, hein, il n'y a que cette solution-là aujourd'hui malheureusement qui va nous permettre de revenir avec une direction qui sera plus à même de négocier.
Et la grève est donc reconductible. Une nouvelle assemblée générale se réunira demain. Le mouvement menace en tout cas le débat du second tour entre les candidates aux municipales à Paris, prévu demain soir sur BFM TV.
Merci Maxime Tellier. Plus de 200 salariés de Nokia à Lannion se sont rassemblés ce matin à l'appel de leur intersyndical pour dénoncer le plan de réduction des effectifs annoncé lors d'un CSE extraordinaire hier. 402 postes sont directement menacés à Lannion, tout comme 830 autres à Nozay dans l'Essonne.
Chez PSA, le télétravail sera-t-il généralisé? Le constructeur automobile y a eu recours très largement pendant le confinement, mais peut-il rester sur ce principe l'avenir, Benoît?
C'est ce que voudrait l'entreprise qui demande à une partie de ses salariés de ne venir travailler plus qu'un jour par semaine dans leur bureau et de rester en télétravail le reste du temps. Mais voilà, selon une enquête publiée aujourd'hui par la CFDT dans l'entreprise, 56% des salariés du groupe se disent défavorables à une massification de ce dispositif. Les explications d'Hakim Kasmi.
Si le groupe PSA était déjà rompu au télétravail avant même la crise de la Covid-19, selon l'étude de la CFDT, son intensification divise. Les deux tiers des salariés interrogés ne souhaitent pas plus de 3 jours de travail distance par semaine, car ils risquent de réduire les liens sociaux et surtout l'émulation entre les collaborateurs. En effet, il n'est pas rare que les problèmes techniques et les bonnes idées se résolvent et se trouvent à la cantine ou bien à la machine à café, résume Hervé Autois, délégué CFDT chez PSA, qui dénonce une décision précipitée.
Une entreprise, avant tout, c'est du collectif. Et il y a plein de choses qu'on arrive à résoudre de manière informelle, pas seulement à la machine à café, aussi au restaurant d'entreprise et même en open space. On a à résoudre dans l'automobile et dans d'autres métiers des problèmes de plus en plus complexes. Quand vous entendez votre collègue d'à côté qui a une difficulté sur un tableau Excel ou même pour joindre un tel ou un tel, eh bien spontanément, l'autre collaborateur va venir vers lui en lui disant bah, « écoute, je te propose ça, etc. etc. » Et ça, c'est une force qu'il faut conserver.
De son côté, la direction de PSA qui justifie cette décision, en expliquant qu'elle va notamment réduire la fatigue liée au transport, a émis le souhait que les salariés du tertiaire, du commercial ou bien de la recherche et développement ne viennent plus au bureau qu'une fois par semaine. Ce qui lui permettrait au passage d'économiser des centaines de millions d'euros par an en loyer. Au total, ce sont donc 80 000 salariés sur les 200 000 que compte le constructeur qui pourraient être potentiellement concernés.
Hakim Kasmi. Emmanuel Macron est ce soir à La Haye, aux Pays-Bas, pour un entretien suivi d'un dîner de travail avec le chef du gouvernement néerlandais Mark Rutte, à 3 semaines d'un nouveau Conseil européen qui doit se réunir les 17 et 18 juillet à Bruxelles. Le président français veut convaincre ses homologues du bien fondé du plan de relance de 750 milliards d'euros mis sur la table la semaine dernière. Louise Baudet.
C'est le plus grand des petits États membres et le plus dur des pays dits frugaux. Ainsi parle-t-on à l'Élysée des Pays-Bas, première destination du VRP Emmanuel Macron. Le président français veut infléchir la position de son ami Mark Rutte, dirigeant européen dont il se sent le plus proche après l'allemande Angela Merkel, précise son entourage. Proximité politique au sein du groupe Renew au Parlement européen et convergence de vues sur de nombreux sujets, mis à part le budget justement. Le très libéral premier ministre néerlandais est hostile à l'octroi de subventions aux pays du sud de l'Europe frappés par la pandémie et la crise économique qui s'ensuit. S'il consent du bout des lèvres au principe d'endettement commun, il veut que l'argent soit versé sous forme de prêts remboursables et conditionne toute aide financière à des réformes drastiques. Il réclame enfin pour son pays un nouveau rabais, autrement dit une réduction de la contribution néerlandaise au budget de l'Union. Rabais qui indisposait Paris il y a encore quelques mois, mais qui est devenu un levier de négociation, tout comme avec l'Autriche, le Danemark et la Suède, ces autres pays frugaux qui peinent à rejoindre les vues franco-allemandes, selon lesquelles en Europe, l'intérêt économique de tous est qu'aucun ne s'effondre.
Louise Baudet. Terminons ce journal aux États-Unis où des primaires démocrates, aujourd'hui même, passionnent la gauche, des primaires législatives et notamment à New York. À New York où la représentante sortante Alexandria Ocasio-Cortez a l'occasion de vérifier sa popularité. C'est une bataille interne à l'intérieur du Parti démocrate. Explication de Nadine Epstein.
Alexandria Ocasio-Cortez, donnée favorite dans cette primaire démocrate de l'État de New York, peut-elle perdre son siège? Alexandra Ocasio-Cortez s'était imposée il y a 2 ans en battant contre toute attente et d'une très courte tête le vétéran démocrate Joseph Cronley au poste de représentant du 14e district de New York à la Chambre des représentants. Pas encore trentenaire, la jeune femme est entrée au Congrès se disant socialiste et issue de la diversité. Face à elle, aujourd'hui, une autre candidate issue de minorité, Michelle Caruso Cabrera, d'origine italo-cubaine modeste. Ancienne correspondante de CNBC, elle s'affiche démocrate libérale sociale. Parti traditionnel démocrate contre réformateur, c'est également ce qui se joue dans une autre primaire au nord de New York. Elle oppose Jamal Brownman, ex-proviseur afro-américain, à Elliot Engel, blanc septuagénaire, soutenu par Hillary Clinton et Nancy Pelosi. aussi, tandis qu'Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders et Elizabeth Warren ont apporté leur soutien au quadragénaire Jamal Bowman. En raison de la pandémie, les électeurs peuvent voter par correspondance, ce que beaucoup d'Américains devraient faire et qui risque de retarder légèrement les résultats définitifs.
Nadine Epstein, une alerte au tsunami en Amérique centrale, alerte lancée après un puissant séisme qui a été ressenti au Mexique, séisme de magnitude 7,5 ressenti il y a quelques minutes dans le sud du Mexique. La météo pour refermer cette édition, temps estival demain partout sur la France et jour de forte chaleur, on attend entre 29 et 37 degrés dans l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun à 18h20 sur France Culture. Voici le temps du débat, c'est avec vous Emmanuel Laurentin.
Merci beaucoup Benoît Bouscarel.